cadeau, mais vous, quand vous fêtez les 400 ans de votre monastère, vous nous offrez un cadeau de pouvoir découvrir ce trésor de l'oraison carmélitaine. C'est une joie de pouvoir vivre cela ensemble. Et au début de cette soirée, nous nous confions à l'Esprit Saint en prenant le chant qui se trouve à la page 7 de nos livrets. Viens, Esprit de sainteté.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, Esprit du Père, sois là. Ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser.
C'est la deuxième soirée, c'est la deuxième rencontre de cette école d'oraison qui en comporte cinq. Et merci et bravo de n'avoir pas été effrayé par le titre, persévérer malgré les distractions. Nous n'avons pas été effrayés par le titre, ou peut-être au contraire, nous avons été attirés par le titre au cas où nous aurions cette expérience des distractions, des sécheresses dans la prière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques éléments clés que nous avons découverts la semaine dernière dans l'enseignement que le Père Emmanuel nous a donné, quelques éléments clés, quelques mots clés de l'oraison carmélitaine. D'abord, c'est la dimension de l'intériorité. L'oraison, c'est une forme de prière qui nous donne d'entrer au-dedans de nous-mêmes. Sainte Thérèse d'Avila, dans l'un de ses livres, Le château intérieur, forge cette petite parabole, ce symbole. Elle nous dit que notre âme, c'est-à-dire notre personne dans sa dimension spirituelle, dans sa capacité à entrer en relation avec Dieu, notre âme est, nous sommes, comme un château au plus profond duquel Dieu demeure. Lorsque nous nous apprêtons à faire oraison, nous pouvons penser à cette image qui d'ailleurs peut nous aider pour nous recueillir, pour entrer au-dedans de nous-mêmes. Je suis, c'est la vérité la plus profonde de mon être, la demeure de Dieu, et l'oraison est la porte de cette demeure qui me donne d'entrer en moi-même, à l'intérieur, pour rencontrer Dieu. Intériorité, donc. Le mot m'a échappé au passage, pour me recueillir, et oui. C'est un deuxième mot-clé de l'oraison carmélitaine, le recueillement. L'oraison, c'est une forme de prière qui met en œuvre le recueillement. C'est-à-dire que je vais me détourner de ce qui est à l'extérieur, qui pour l'essentiel est bon d'ailleurs, ce qui me donne d'entrer en relation avec les autres, mais je vais laisser cela de côté un moment pour me recueillir, entrer au-dedans de moi. L'oraison, pour Sainte Thérèse, c'est un moyen pour entrer à la rencontre de Dieu qui est toujours présent en nous. Notre temps d'oraison ne va pas faire venir Dieu en nous. Il est toujours déjà là. Mon temps d'oraison, il va me faire entrer en moi à la rencontre de Dieu. Dieu est toujours là au-dedans de moi. Moi, je suis souvent à la superficie de mon être, voire à l'extérieur de mon être. Il me faut me recueillir pour entrer en moi à la rencontre de Dieu. intériorité, recueillement. Et tout cela, c'est une affaire d'amitié. Vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase que le père Emmanuel citait la semaine dernière, qui nous vient de sainte Thérèse d'Avila dans le livre de sa vie. L'oraison, selon moi, n'est pas autre chose qu'un entretien d'amitié que nous avons souvent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer, Dieu le Christ. C'est le troisième mot-clé de l'oraison carmélitaine, l'amitié. L'oraison me permet d'entretenir l'amitié avec Dieu, d'entrer en amitié avec Dieu. Intériorité, recueillement, amitié, pourquoi tout cela ? Eh bien parce que je désire grandir dans l'union avec Dieu. Parce que j'ai ce désir de rencontrer Dieu pour m'unir à lui. Et plus profondément encore, cela peut nous paraître extraordinaire, et c'est vrai, c'est extraordinaire, parce que non seulement moi je désire m'unir à Dieu, mais Dieu lui-même désire m'unir à lui. Saint Jean de la Croix écrit quelque part, « Si l'âme cherche Dieu, Dieu la cherche bien davantage encore. » Par l'oraison, je pars à la recherche, à la rencontre de Dieu, mais en fait, Dieu m'attend depuis toujours. Dieu m'attend déjà. Alors voilà ce que nous sommes venus vivre lors de notre première rencontre et tout au long de cette école d'oraison. Et ce soir, sans rien casser de notre enthousiasme et de notre désir, avec réalisme, il faut nous confronter à la question de la persévérance malgré les distractions, malgré les sécheresses que nous pouvons éprouver dans l'oraison. Tout ce qui vient un petit peu parasiter notre désir, notre entrain, qui risquerait de nous freiner. En fait, c'est comme dans toute histoire d'amitié, il s'agit de durer. Alors, évidemment, d'une manière spéciale, dans l'amitié avec Dieu, parce que cette amitié avec Dieu, nous ne la vivons pas seulement au niveau sensible, au niveau le plus superficiel. Ce que l'on sent dans la prière, la joie spirituelle qu'on peut éprouver, le goût qu'on peut avoir dans l'oraison, est une bonne chose, nous attire, nous guide au début, mais ce n'est pas un bon indicateur de l'union à Dieu. Le premier des quatre textes que vous trouvez dans votre livret à la page de ce soir, c'est un texte qui est tiré d'une lettre de sainte Thérèse de Lisieux, à la veille de sa profession au Carmel. On dirait que Thérèse de Lisieux, quand la porte du monastère se referme derrière elle, les consolations dans l'oraison sont restées à l'extérieur du monastère. Voici ce qu'elle écrit à la veille de sa profession religieuse. Elle parle de sa prière, de son oraison. « Jésus m'a prise par la main et il m'a fait entrer dans un souterrain où il ne fait ni froid ni chaud, où le soleil ne luit pas et que la pluie et le vent ne visitent pas. Un souterrain où je ne vois rien, qu'une clarté à demi voilée, la clarté que répandent autour d'eux les yeux baissés de la face de mon fiancé. C'est Jésus. Mon fiancé ne me dit rien et moi je ne lui dis rien non plus, sinon que je l'aime plus que moi, et je sens au fond de mon cœur que c'est vrai, car je suis plus à lui qu'à moi. » Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jeune femme d'à peine 17 ans, qui est carmélite depuis un an et demi? Elle nous dit en fait que dans l'oraison, au niveau sensible, au niveau du goût, elle n'éprouve pas grand-chose, mais qu'elle demeure là, car elle croit qu'elle est dans la présence de Dieu, elle croit que mystérieusement Jésus l'unit à lui, et puis après tout ce qu'elle cherche, c'est pas du sensible, c'est de l'amour. Alors, peut-être que ce souterrain obscur peut être le chemin de l'amour. Ce premier texte, il n'est pas pour nous faire peur, et merci de ne pas vous être levé, de ne pas être parti en courant. Ce texte, il n'est pas pour nous faire peur, il est simplement pour nous montrer de manière massive que les plus grands saints n'ont pas toujours vécu l'oraison, la prière, dans les consolations tout au long de leur vie. Et non seulement ils n'ont pas toujours vécu les consolations dans l'oraison, mais en plus on dirait qu'ils nous disent, on dirait que Thérèse de Lisieux nous dit, ce n'est pas si important que ça. Alors c'est pas si important que ça, il faut creuser, parce qu'en même temps c'est pas non plus marrant. Qu'en est-il ? Les distractions, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous avez cette expérience. Nous avons décidé de prendre un temps de prière, un temps d'oraison. Nous nous efforçons donc d'être attentifs à cette présence intérieure dont nous parlions en commençant. Et puis voilà que nous avons mille choses qui nous traversent l'esprit. Nous essayons de nous recueillir, d'aller au-dedans, et nous éprouvons en nous qu'il y a des distractions, il y a des choses qui nous font sortir vers l'extérieur. Ou bien nous pouvons éprouver des sécheresses. Nous sommes venus pour rencontrer le Christ et c'est quelque chose de profondément heureux qui nous met en joie. Et pourtant, on n'éprouve rien, ça n'a pas de goût, c'est sec. C'est à l'inverse de l'effort de recueillement que nous faisons, nous tourner vers la présence de Dieu en nous. Et puis, c'est à l'inverse de la joie que nous attendons, que nous espérons. Commençons par les distractions, ce qui nous accapare et qui nous fait nous retourner vers l'extérieur. En fait, c'est quelque chose d'assez normal et compréhensible. Regardez, en dehors de la prière, quelque chose qui nous arrive fréquemment. Je vais boire un verre avec un ami au bar. Bon, vous me direz, moi ça ne m'arrive pas très souvent. Mais supposons... ça nous arrive quand même, tandis qu'un ami est en train de nous parler quelque chose d'important pour lui, d'avoir quelque chose qui nous traverse l'esprit, une préoccupation. Ça n'empêche pas qu'on va revenir à ce que notre ami nous dit. Ou bien là, tandis qu'on est attablé au bar, il y a une moto qui passe en faisant beaucoup de bruit, je vais me détourner pour voir ce qui se passe. Et puis, je vais revenir à ce dialogue avec mon ami. Distraction, c'est quelque chose de naturel. Le problème, ce n'est pas d'avoir des distractions. Le problème, c'est de se fixer sur les distractions. Le problème, c'est de ne pas revenir au centre, au cœur. La première chose à faire, quand nous vivons des distractions, eh bien, c'est patiemment, humblement, avec persévérance, revenir au centre. Avec, pour citer un passage de l'Écriture, avec force et avec douceur. Avec force, c'est-à-dire je n'entretiens pas la distraction. Elle me passe par la tête, mais je ne l'entretiens pas. Je reviens au centre, à la présence de Dieu en moi. Avec douceur aussi, parce que le cœur de mon oraison ne va pas être de batailler contre les distractions, contre les pensées. Avec force, avec douceur. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis ? Oui, je dirais que face aux distractions, nous pouvons effectuer un petit discernement. Peut-être pas forcément pendant le moment de l'oraison, mais après, nous dire, tiens, ces distractions qui sont passées par la tête, par le cœur, qu'est-ce que c'était ? Plusieurs choses. Il peut y avoir des distractions qui sont simplement des préoccupations de ma journée qui me passent par la tête. Oui, le temps d'oraison ne me met pas dans une bulle, ne m'isole pas de ce que je vis au cours de la journée. Et c'est normal que surgisse dans le silence de la prière ce qui me préoccupe. Je peux le transformer en matière de prière. Et la distraction est bien attrapée. Elle voulait me détourner du Seigneur. Je la transforme en matière de prière. Attention, je ne vais pas transformer mon oraison en monologue intérieur au sujet de ce qui me préoccupe en croyant que j'en fais une matière de prière. Non, je vais le présenter au Seigneur et puis le laisser. Nous avons peut-être tous des images que nous aimons utiliser pour cela. Je vais déposer ce qui me préoccupe au pied de la croix. Et puis je vais l'abandonner au Seigneur. Je vais jeter dans le cœur du Christ ce souci important qui m'habite actuellement. Je veux lui laisser déposer dans son cœur et revenir à l'entretien d'amitié avec lui de leur raison. Vous voyez, d'une certaine manière, cette première sorte de distraction-là, elle nous montre que nous sommes incarnés, que nous sommes unifiés et que nous ne sommes pas dans une bulle au moment de l'oraison. Il peut y avoir d'autres distractions où je vais repenser à une situation un petit peu difficile de mon quotidien. Peut-être, imaginons quelqu'un qui vit dans une communauté religieuse et qui a eu un accroc avec un frère de sa communauté. Ah mais peut-être que dans l'oraison, ça va revenir le titiller, ça. Ça peut être que cette distraction-là, ça peut être une lumière que le Seigneur me donne dans la prière pour me dire, c'est bien beau de venir faire oraison pour entretenir l'amitié avec moi, mais ça serait bien aussi d'entretenir une amitié concrète avec ton prochain le plus proche, le frère avec qui tu vis en communauté. Vous voyez, ces distractions-là, c'est presque une grâce, dirais-je, qui nous permet de vivre quelque chose de ce que le Seigneur dit dans l'Évangile, lorsque dans Saint Matthieu, il affirme « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te mettre d'accord avec ton frère, te réconcilier avec lui, et ensuite viens offrir ton offrande. » Dans Matthieu 5, 23-24. Le Seigneur qui me dit, attention, l'oraison, elle est là aussi pour te faire grandir en charité avec les autres, et tu ne peux pas grandir dans l'amitié avec moi, le Seigneur, si tu négliges l'amitié avec ton prochain. Peut-être aussi que ces distractions, ces divagations, elles vont venir parce que je n'ai pas de matière pour entretenir le dialogue intérieur avec le Christ. L'oraison, cet entretien d'amitié intérieure, ce n'est pas une méditation au sens vague du terme, où je me pose là et puis j'attends que ça se passe. Ce n'est pas non plus un exercice de vide mental. C'est un dialogue intérieur, cœur à cœur avec le Christ. Et ce dialogue intérieur, cœur à cœur avec lui, c'est important d'avoir une matière pour le nourrir. Qu'est-ce que peut être la nourriture de mon oraison ? Particulièrement la parole de Dieu. Vous voyez, quand on s'exerce à l'oraison, c'est important d'avoir une fréquentation régulière de l'écriture, de la parole de Dieu, en particulier de l'évangile. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile, je vois à chaque page des personnes en relation avec le Christ, des personnes en amitié avec le Christ. Et ça m'apprend, ça me met sous les yeux ce que c'est qu'être ami du Christ. Et peut-être qu'un passage de l'Évangile que j'aurais médité dans ma lecture de la parole, va m'aider dans le recueillement de l'oraison. Peut-être que ça m'inspirera une prière, peut-être que ça m'inspirera une attitude spirituelle dans ce cœur à cœur avec le Christ. Par exemple, si aujourd'hui j'ai médité cette rencontre de Jésus avec Zachée, vous vous souvenez, lorsque Jésus traverse la ville de Jéricho, il y a quelqu'un qui, comme nous, veut rencontrer Jésus, Zachée. Et alors je vais voir que Zachée, comme il est assez rusé, il prend tous les moyens à sa disposition et il monte sur un arbre, sur un sycomore, pour voir Jésus passer. Peut-être que ça va m'inspirer dans l'oraison une attitude intérieure. Moi aussi, je suis au bord du chemin et je vois Jésus passer. Je désire entrer en relation avec lui. Ou peut-être que j'ai été frappé dans ma lecture de ce passage de l'Évangile par le fait que Jésus se tourne vers Zachée, il lève les yeux vers lui et il lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer chez toi ». Cela va peut-être nourrir le dialogue intérieur avec le Christ, dans le silence de mon cœur. Moi aussi, d'une certaine manière, au début de mon temps d'oraison, le Seigneur m'a dit, comme à Zachée, « descends vite dans ton cœur, car aujourd'hui je veux te rencontrer là, et cela va m'aider à me recueillir. » Ou bien d'autres passages de l'Évangile, Sainte Thérèse d'Avila affectionnait particulièrement chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, parce qu'elle se reconnaissait dans cette femme qui avait soif et qui venait puiser de l'eau, oui, dans l'oraison, je viens puiser de l'eau au fond de mon cœur pour m'abreuver de la grâce du Seigneur, parce qu'elle était touchée que le Seigneur se fasse mendiant, lui disant « donne-moi à boire ». Oui, je peux me représenter dans le silence de l'oraison, le Christ qui s'approche de moi et qui me demande que je l'aide, que je prenne soin de lui, que je lui donne à boire. Elle était certainement touchée aussi que cette femme qui avait eu une vie un petit peu compliquée soit guérie, purifiée par le Seigneur. Moi aussi, dans l'oraison, je rencontre le Seigneur qui me regarde avec amour et avec miséricorde, qui me délie de ce qui me retient, qui me pardonne. Cette nourriture de l'oraison, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. Retenons bien, s'il vous plaît, que l'oraison silencieuse, ce cœur à cœur intérieur avec le Seigneur, c'est pas un exercice de vide mental. C'est pas simplement je viens me poser là et puis j'attends qu'il y ait quelque chose d'un peu extraordinaire ou magique qui se produise. Non, ça doit se nourrir et l'évangile est une nourriture particulièrement importante pour l'oraison. Cela étant dit, d'une manière ou d'une autre, les distractions, les sécheresses dans l'oraison, c'est toujours un appel à aller plus loin, un appel à aller plus profond. Des fois, on se désole à cause des distractions parce qu'on croit que l'oraison, c'est une question de concentration. Voilà, il faut rester concentré sur la présence de Dieu. À dessein, nous avons mis dans la page de ce soir, dans votre livret, un texte de Thérèse d'Avila dans le château intérieur, dans les quatrièmes demeures, où elle nous dit cette phrase extraordinaire. Dans l'oraison, l'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. L'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. On pourrait peut-être traduire en disant, c'est pas une question de cervelle, c'est une question de cœur. C'est pas une question de concentration, c'est une question d'attention. L'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera davantage votre amour. Mais peut-être ne savez-vous pas bien ce que c'est qu'aimer. Aimer, ce n'est pas avoir beaucoup de goût spirituel. Aimer, c'est être fermement résolu de contenter Dieu en tout. Autrement dit, l'oraison, ce n'est pas une question de cervelle, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de concentration, c'est une question d'attention à la présence de Dieu, et c'est une question d'amour, et l'amour, nous le savons bien, ce n'est pas une question de sentiment, les sentiments ça peut aider surtout au début, mais l'amour c'est surtout engager ma volonté pour contenter, pour faire plaisir la personne que j'aime. Aimer quelqu'un, c'est pas essentiellement avoir des grands sentiments. Aimer quelqu'un, c'est engager ma volonté pour prendre soin de lui, pour lui faire plaisir. Et elle conclut ce petit passage, Thérèse, en disant « N'allez pas vous figurer que la grande affaire soit de ne jamais penser à autre chose et que si l'on se distrait un moment, tout soit perdu. » Ah, écoutez, vous avez une distraction, bah, écoutez, vous laissez passer et vous revenez au centre. Elle aime bien souligner aussi que ces distractions, ces sécheresses aussi, ces moments où l'oraison est un petit peu plus difficile et au fond qu'on s'engage vraiment à persévérer, ben c'est un petit peu le test de la gratuité de notre oraison. Est-ce que je vais à l'oraison pour faire plaisir à Jésus, pour le rencontrer, pour le contenter, aime bien dire Thérèse d'Avila, ou est-ce que je vais à l'oraison pour recevoir des consolations et des sentiments spirituels? Alors là, Thérèse, elle est assez radicale. Elle médite sur un passage que nous avons sans doute en mémoire dans l'Évangile, au chapitre 10 de saint Marc, la rencontre de Jésus avec l'homme riche. Vous vous souvenez, cet homme qui, comme nous, a de très bonnes dispositions, il va voir Jésus. Alors lui ne va pas le voir pour faire oraison, mais il va le voir aussi pour une question importante. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et quand Jésus lui dit, va vends tous tes biens et suis-moi, il s'en va tout triste. Thérèse d'Avila fait le parallèle avec les sécheresses dans l'oraison. Nous sommes allés faire oraison plein de joie, et quand on n'a pas de consolation, on a la tentation de s'en aller tout triste. Si c'est comme ça, moi je m'en vais. Alors, en fait, ces sécheresses, elles sont précieuses. J'oserais même dire qu'elles sont une grâce. Pourquoi? Parce qu'elles vont être le test de la gratuité de notre oraison. Est-ce que je viens bien pour faire plaisir à Jésus ou pour me sentir bien, pour mon bien-être intérieur? Pour Thérèse, pleurnicher après les consolations ou s'en aller tout triste, pire encore, c'est un manque d'humilité. C'est le troisième petit texte qui se trouve dans votre livret. Ô humilité, humilité. Je ne sais pourquoi je suis un peu tenté, écrit Thérèse d'Avila, de croire que si ces personnes s'affligent tant des sécheresses, c'est qu'elles manquent un peu de cette vertu d'humilité. Pourquoi il y a un problème d'humilité? Parce qu'avec la finesse psychologique et spirituelle qui est la sienne, elle démasque dans notre cœur une réaction du type « quand même, j'ai fait l'effort de prendre un temps d'oraison, j'ai fait l'effort en plus de suivre une école d'oraison au Carmel d'Angers et de prendre régulièrement un temps d'oraison et Dieu ne donne pas de consolation spirituelle. Mais pour qui se prend-il celui-là ? Évidemment, nous ne le disons jamais de façon aussi grossière, grâce à Dieu, ni de façon aussi triviale, mais il y a quelque part au fond de notre cœur la subtile idée que Dieu nous doit quelque chose. Alors en fait, pour ce qui concerne l'oraison comme pour tout, en fait, Dieu ne nous doit rien. Et attention, dire que Dieu ne nous doit rien, ce n'est pas une parole hautaine, dire « Dieu ne nous doit rien, elle est bien au-dessus de tout ça ». Ce n'est pas qu'il nous doit rien, c'est qu'il désire nous donner le don de lui-même gratuitement. Et donc nous devons aller à l'oraison gratuitement. J'ai un peu hésité à vous dire ça dès la deuxième soirée, mais je me suis dit que je me sens en confiance, je vais vous le dire. Nous pourrions, voire nous devrions, faire un acte de détermination, de persévérer dans l'oraison, quand bien même nous n'éprouverions que des sécheresses jusqu'à la fin de notre vie. Je vous avais prévenu, c'est un peu... Mais en fait, c'est ça. Pour le dire d'une autre manière, faire au début de chaque temps d'oraison un acte de gratuité. Voilà, Seigneur, je viens à toi gratuitement pour être auprès de toi. Si j'éprouve des consolations, je t'en rendrai grâce. Si j'éprouve de la sécheresse, je t'en rendrai grâce aussi. Parce que je crois qu'à travers les consolations comme à travers les sécheresses, tu peux me donner la grâce de grandir dans l'union avec toi. Et c'est cela que je désire. Vous voyez, cet acte de détermination, en fait, de manière positive, c'est un acte de détermination à persévérer, quoi que j'éprouve extérieurement, superficiellement, parce que c'est un acte de foi que le Seigneur munit à lui de la manière qu'il veut. C'est un acte de foi. Je conclurai en disant que les sécheresses peuvent être une belle occasion aussi d'entendre un appel à la simplification dans l'oraison. Nous le savons, des fois au début de notre chemin de prière, nous méditons sur l'Évangile, où nous entretenons un dialogue intérieur très fourni avec le Seigneur. Et puis, quand ça se simplifie, parfois, ça nous inquiète. On dit « Ouh là là là, je risque de perdre la main, donc je vais remplir le silence. » Non, attention, peut-être que le Seigneur veut me mettre dans un simple silence de sa présence. Vous savez ce qu'on dit des fois de couples qui ont de très nombreuses années de mariage derrière eux. Certainement qu'au début de leur mariage, ils parlaient beaucoup, ils s'expliquaient les choses, ils partageaient beaucoup de choses. Et puis, au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, il suffit qu'ils se regardent, n'est-ce pas, pour se comprendre. Voilà. Ou de très vieux amis aussi, qui disent un mot et qui font un petit geste comme pour dire « bon, t'as bien compris hein », et l'autre, sans parole, d'un simple petit geste, dit « et fait comprendre, oui, j'ai bien compris ». Mais il y a des silences dans l'oraison qui ont à voir avec cela aussi, où le Seigneur nous dit « c'est bon, il n'y a pas besoin de me faire de grands desseins, je suis là, j'ai compris, demeure en silence auprès de moi ». Une autre sainte carmélite, qui a vécu au Carmel de Dijon au début du XXe siècle, sainte Élisabeth de la Trinité, nous donne ce conseil dans cette situation-là. « Je te conseille de simplifier tous tes livres, de te remplir un peu moins. Tu verras que cela est bien meilleur. » Et nous pourrions poursuivre. « Je te conseille de simplifier ton dialogue intérieur. Je te conseille de ne pas te soucier des sécheresses. » Prends ton crucifix, regarde, écoute. Alors c'est très concret parce que au Carmel, nous portons sur notre habit un crucifix. Et c'est une dévotion que Élisabeth avait dans sa cellule, voilà, de poser son crucifix devant elle et de prier ainsi, en l'écoutant, en le regardant. Que ça soit devant un crucifix, devant une image du Christ ou intérieurement, devant cette présence du Seigneur dans le sanctuaire de notre cœur, nous pouvons mettre en pratique ce conseil. Regarde, écoute, tiens-toi en silence auprès de ton ami qui est là. Alors vous voyez, je conclurai en disant que non seulement les distractions et les sécheresses, c'est normal, mais c'est même une bonne nouvelle. Ça nous dit que Dieu est plus grand que ce que nous avons déjà découvert de lui. Et ça veut dire qu'il nous appelle à une union plus profonde avec lui que ce que nous avons déjà expérimenté. Et les mots d'ordre que les saints du Carmel nous laissent ce soir, eh bien, c'est fidélité à l'engagement pris. La tentation majeure face aux sécheresses, aux distractions, c'est d'arrêter l'oraison. Ah ben si je sens plus rien, je m'en vais. Non. Persévérance. Fidélité à l'engagement pris. Et aussi, simplification. Regarde, écoute le Christ qui est là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je crois que nous avons une dizaine de minutes. Si nous voulons dialoguer, prenons peut-être quelques petits instants pour relire nos notes ou repenser un petit peu à ce que j'ai essayé de vous dire ce soir. Regardez les quatre petits textes qui sont dans votre livret. Puisqu'il y a l'une ou l'autre question qui émerge, ça pourrait amorcer un petit dialogue entre nous. Pensez-vous à quelque chose ?
Qui va se lancer? Profiter de la présence du frère.
Pour que tout le monde vous entende, on va prendre un micro, s'il vous plaît. Merci.
Je pense à une pénitence qui m'avait été infligée à Thésée. Aller devant le tabernacle et vous ne dites rien. Le Seigneur sait par avance ce dont vous avez besoin. et c'est horriblement difficile de ne rien dire. C'est beau.
Alors, c'est vrai que c'est difficile de ne rien dire, et puis peut-être aussi, j'élargis les choses et ce n'est pas une évaluation quelconque de ce que vous pouviez vivre vous-même, bien sûr, c'est redoutablement difficile, et puis je crois que il y a un moment pour le vivre, et il y a un moment pour ne pas encore le vivre, peut-être, ce silence. Vous voyez, c'est... aussi bien Saint Jean de la Croix que Sainte Thérèse, mais peut-être plus encore Sainte Thérèse, insiste beaucoup sur le fait que, d'abord, nous, ce qui nous incombe, c'est de nous efforcer pour alimenter cette relation d'amitié, cette relation d'amour. Et d'une certaine manière, de ne pas nous mettre dans le silence si le Seigneur ne nous y met pas. De ne pas nous... Bien sûr, de ne pas être bavard dans notre raison, de ne pas être bavard avec le Seigneur, mais de ne pas nous mettre dans le silence si le Seigneur ne nous y met pas. Saint Jean de la Croix, lui, de manière assez complémentaire à ce que dit Sainte Thérèse, dit « Oui, mais attention, soyez attentifs à discerner quand le Seigneur vous met dans le silence, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de temps, il ne faut pas continuer à avoir une prière trop active si le Seigneur veut vous mettre dans le silence intérieur. » Donc effectivement, je crois que l'exercice de l'oraison affine aussi nos sens spirituels pour nous faire sentir quelle attitude juste. Vous savez bien, comme quand on est en train de dialoguer avec un ami et des moments il y a un petit creux dans la conversation, on sent qu'il faut relancer, puis il y a un autre moment, on sent qu'il est en train de nous partager quelque chose de très important, c'est pas le moment de lui couper la parole pour lui dire ce à quoi on pensait. Encore une fois, ce que Sainte Thérèse vous disait la semaine dernière, un entretien d'amitié, voilà, un dialogue.
J'ai pour ma part souvent l'impression que cette oraison est totalement compatible avec l'action. C'est-à-dire que...
Est-ce qu'elle est totalement compatible?
Elle est compatible avec l'action, c'est-à-dire qu'on peut toujours avoir cette distance par rapport à ce qu'on fait, oui, et maintenir ce dialogue intérieur qui nous permet en permanence de s'ajuster finalement à ce qu'on est amené à vivre. C'est-à-dire, oui, que finalement je me demande si le but ultime de l'oraison, c'est pas finalement de vivre justement pleinement de cet échange qui est quelque part un peu continuel et... Alors ça demande d'être un peu distant, enfin d'avoir, je dis souvent cette expression de spectateur, comme on dit, c'est-à-dire on regarde à la fois ce qui se vit et tout en essayant de maintenir ce dialogue intérieur.
Alors oui, je crois que cela aussi c'est extrêmement important. La cinquième séance de notre école permettra sans doute de parler un petit peu plus de cela. Moi je dirais juste d'un mot, finalement dans notre école de raison nous parlons particulièrement de l'exercice spirituel de l'oraison, c'est-à-dire du moment où je m'arrête et où j'oriente tout mon être vers cette présence intérieure du Seigneur, ce dialogue intérieur avec lui. Eh bien, cet exercice spirituel de l'oraison, le moment d'oraison, je crois que c'est important qu'il nous oriente vers une vie d'oraison, ou en tout cas vers une vie dans la présence de Dieu. Finalement, c'est un moment, l'oraison, où je vais être attentif de manière... plus intense, plus dense, plus exclusive aussi à cette présence de Dieu. Et c'est important que ça rayonne sur ma vie entière. Et qu'effectivement, grâce à cet exercice de l'oraison, je devienne de plus en plus attentif à la présence de Dieu dans ma vie tout au long de ma journée, et que je m'exerce aussi effectivement à ce dialogue intérieur tout au long de la journée. Et je crois que les deux s'éclairent, se nourrissent et s'appellent mutuellement. C'est-à-dire que vivre dans cette attention spirituelle dont vous nous parlez tout au long de la journée nécessite à certains moments de se poser pour se consacrer uniquement à cet exercice spirituel, pour parler ainsi. Et puis, les temps d'oraison aussi, ça peut être des pauses ou des parenthèses de ma journée. Ça doit diffuser, porter du fruit dans ma vie entière. Oui, ça me semble extrêmement important.
parfois, ces distractions, elles sont vraiment fortes et il est tellement difficile de se décrocher. Et vous me donnez le conseil de les transformer en prière et de les déposer au pied de la croix, mais si cela ne suffit pas.
Oui, si cela ne suffit pas. Je dirais, vous voyez, l'image qui me vient un petit peu, c'est, vous voyez, je reprenais au début cette image du château intérieur de l'âme que prend Sainte Thérèse. L'oraison nous oriente vers le centre le plus intérieur de notre cœur, là où Dieu lui-même demeure. Les distractions, en fait, elles sont à la superficie. Donc, quand bien même cela est douloureux, pénible, orienter mon cœur, orienter mon attention spirituelle vers l'intérieur, ne pas dialoguer avec elle. Vous voyez, un petit peu comme, encore une fois, il y a du bruit autour de moi et il y a quelqu'un qui me parle, ben, ça va être pénible, mais je vais tourner mon oreille, je vais orienter mon oreille vers la personne qui me parle, plutôt que passer tout ce temps à se dire « mais qu'est-ce que c'est agaçant ce bruit autour ?» Et puis, si le voisin faisait moins de bruit quand même, c'est vraiment incroyable. Voilà, faire un effort d'inattention à ces distractions. C'est un exercice, ce n'est pas facile, voilà, mais oui, un petit peu comme, c'est ça, il y a du bruit autour, de la friture sur la ligne, eh bien, je fais un effort d'inattention à ce qui me distrait pour poursuivre cet effort d'attention à Dieu. Et quand je dis effort, attention à ce que cela ne soit pas quelque chose de crispé, de volontariste, voilà. Il y a quelque chose de plus profond. Au sujet, plutôt que des distractions, des sécheresses, Thérèse de Lisieux prend l'image du ciel gris. Voilà. Par l'oraison, je veux me tourner vers le soleil, qui est Dieu, qui est le Christ, et il y a des nuages. Comment je vais faire ? Ben, effectivement, je peux passer le temps à me désoler du fait qu'il y a des nuages. Thérèse a dit, non, moi, je vais fixer le soleil à travers les nuages parce que je sais qu'au-delà des nuages, le soleil brille toujours. Vous voyez, pour faire le lien un petit peu avec ce dont nous parlons, sous le ciel gris, je peux passer le temps à regarder les nuages. Mais je peux aussi faire le choix, avec une boussole, je sais où est-ce que le soleil se trouve, de demeurer orienté dans la direction du soleil. Alors vous me direz, oui, mais je ne vois que les nuages. D'accord, mais ce qui m'importe, ce n'est pas de voir ou de ne pas voir, c'est de rester orienté dans cette direction-là. Je crois qu'avec les distractions, il y a quelque chose de cela aussi. Voilà. Mais vraiment, un effort, entre guillemets, de désattention, d'inattention aux distractions. L'erreur est vraiment... de passer le temps de l'oraison à lutter contre. Voilà. Je laisse couler. Quelque part dans le château intérieur, Thérèse d'Avila dit « C'est comme les nuages qui passent dans le ciel. Laissez passer les nuages. » Alors là, vous êtes en train de dire oh, « Ouais, mais ce n'est pas que des nuages qui passent dans le ciel. Ça pleut sur moi aussi. » Voilà, d'accord, mais laissons passer et restons fixés vers le soleil. C'est un vrai effort, c'est une ascèse. Hein. J'ai l'air de dire que c'est facile. Hein. C'est seulement l'air.
Je voulais vous dire aussi si on a tendance à s'endormir. Oui. Qu'est-ce qu'on... Enfin voilà. Est-ce qu'on se dit, bon, ben, ça ne va pas du tout, je dors, ou on laisse un peu. Enfin voilà, ça peut donner une tendance, c'est vrai, à se calmer si on est très nerveux, ou ça nous calme et on s'endort.
Oui. Ben, alors, il y a plusieurs choses, hein, effectivement. D'abord, si on s'endort, peut-être la première chose à faire, c'est de vérifier si on dort suffisamment la nuit ou si on a fait une bonne sieste. C'est pas une plaisanterie, hein. C'est pas une plaisanterie. Parce que, vous voyez, c'est vrai, je n'en ai pas parlé, l'oraison, elle prend tout notre être. Donc, d'une certaine manière, on a besoin d'être dispo du point de vue physique aussi pour faire oraison. Hein. Voilà. Si je suis crevé par un travail physique, ben, c'est peut-être pas le bon moment pour me poser pour faire oraison. Ah, voilà. Alors, ensuite, je dirais, voilà, une fois qu'on a examiné un petit peu notre rythme de vie global, ben, je dirais de ne pas culpabiliser cela. Voilà. Au moment où je me réveille, eh bien, je reprends l'oraison. Voilà. Thérèse de Lisieux, par exemple, à son époque, il se trouve, bon, elle était entrée très jeune au Carmel. Son époque aussi, le rythme était particulièrement rude, surtout pour une jeune femme. Peut-être que l'équilibre global de la journée aussi n'était pas extra. Elle dormait très souvent pendant l'oraison. Elle a cette belle image. Elle dit je pense que les parents aiment leurs enfants quand ils dorment aussi. Donc, le bon Dieu ne doit pas être mécontent de ce sommeil. Elle prend aussi l'image du chirurgien qui endort ses patients pour opérer. Bon. Mais vous voyez, d'une certaine manière, c'est un acte de confiance et d'abandon quand je réalise que je me suis endormi. Mais en revanche, avant de m'endormir, je vais tout faire pour ne pas m'endormir. Je ne vais pas arriver à mon temps d'oraison en disant, pourvu que je m'endorme, pour être tranquille. Voilà. Vous voyez, toutes ces situations où faire ce qui dépend de nous pour que tout se passe pour le mieux et ne pas culpabiliser ce qui se passe autrement.
Quelle différence faites-vous concrètement entre l'oraison et la méditation, dans le sens où l'oraison est un dialogue avec notre Seigneur, là où la méditation est une sorte d'introspection avec l'aide d'un texte biblique ou d'un psaume, mais où on s'aperçoit quand même que l'oraison comporte une certaine part de méditation et inversement.
Oui, alors c'est vrai que suivant les courants spirituels, les écoles de spiritualité, bénédictines, carmélitaines, ignatienne, on ne va pas utiliser ces mots pour dire tout à fait la même chose. Je parle en langage carmélitain. Voilà. Et encore, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix ne diraient pas exactement la même chose. Pour Saint Jean de la Croix, la méditation, c'est un petit peu toute forme de prière un peu active. Voilà. Donc, d'une certaine manière, une méditation à partir d'un texte biblique, mais aussi un dialogue intérieur. Bon. Pour Sainte Thérèse, plus en phase avec la tradition spirituelle plus générale, la méditation, effectivement, ça va être un effort non pas de réflexion, mais de s'appuyer sur un texte biblique, par exemple, de se représenter une scène évangélique. Et pour elle, cette méditation pourrait être un premier pas vers l'oraison. Mais l'oraison en tant que telle, le cœur de l'oraison, sera le dialogue intérieur, intime et spontané avec le Christ. Donc peut-être que je dirais, en gardant un petit peu la manière de parler que j'ai adoptée ce soir à partir de Sainte Thérèse, je pense qu'elle nous dirait que la méditation peut être une première étape ou une étape préparatoire de l'oraison. Lorsque tout à l'heure je parlais de l'importance de la nourriture au moyen de l'écriture et de la parole de Dieu, on pourrait dire une méditation de l'écriture est une bonne nourriture et une bonne préparation à l'oraison. On peut aussi commencer un temps d'oraison par une brève méditation d'un texte biblique, d'un texte évangélique, et puis plonger dans ce cœur à cœur. Ben justement, il faut plonger dans ce cœur à cœur, et peut-être que le moment est venu pour entrer dans le recueillement. Nous prendrons le chant qui se trouve à la page 5 de nos carnets, humblement dans le silence. Ce soir, comme cela est prévu chaque fois, ce temps d'oraison en silence durera 30 minutes. Juste avant que le chant commence, voilà, prenons le temps aussi de prendre une posture où nous sommes bien installés, sans rigidité, mais où nous allons pouvoir durer pendant cette demi-heure. Et puis, eh bien, nous pourrons appuyer notre recueillement, notre cœur à cœur avec le Seigneur, par une parole peut-être d'un des textes spirituels qui nous aura éclairé ce soir, par un passage de l'Évangile que peut-être nous avons en mémoire, simplement en nous tenant auprès du Christ et en lui confiant ce qui est important pour nous, voilà, en entrant dans ce cœur à cœur avec lui.